Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Bonjour Clément, j'espère que vous l'entendez bien sur le chat. N'hésitez pas à nous dire si tout est bon au niveau du son. Sam Darnold, ah oui, c'est vrai que tu as une petite ressemblance avec Sam Darnold. C'est pour ça que les gens rigolaient en disant c'est Sam Darnold l'invité. Parce que, parce que tu l'as annoncé sur Twitter, c'est pour ça que les gens parlaient de Sam Darnold. Ok, oui, on l'entend.
Ça me suit depuis 2 ans.
Comment ?
Ça me suit depuis 2 ans.
Ça te suit depuis 2 ans. Ah ouais, mais j'aurais pas fait rien tout de suite. Hola Clément, bonjour Clément, tu as le bonjour du chat. Clément, on est là pour parler donc de stats avancées. Si vous êtes un fan passionné de NFL depuis plusieurs années, même de sport en général, vous n'avez pas pu manquer le phénomène des statistiques avancées. Dans la rédaction de TDA, on a quelqu'un qui adore ça, c'est Clément. Clément, une question très très simple. Et n'hésitez pas à poser vos questions à Clément sur le chat, sur les stats avancées, hein, si vous aimez ça, et même si vous découvrez ça. À quoi ça sert, les stats avancées ?
Alors, les stats avancées, je pense que déjà, c'est créé par opposition aux statistiques brutes et usuelles, celles qui sont utilisées en NFL. Parce qu'on parle toujours de stats avancées comme un truc très nouveau, mais on est déjà dans un sport de stats, parce qu'on quantifie tout en yards, en touchdowns, en interceptions. Alors, les stats avancées, c'est comme une manière plus fine de voir ce sport en intégrant du coup du contexte, en intégrant des notions de stabilité, du coup de prédiction de ce qui pourrait se passer. Et donc, à quoi ça sert ? Je pense que ça sert surtout à comprendre le jeu. Il faut un peu enlever le poncif de la statistique avancée où, en fait, on regarde juste une feuille et on ne regarde pas les matchs. Le but, c'est toujours de mettre en comparaison les deux. Parce que s'il y a une stat qui sort, qui met Jimmy Garoppolo 3 positions au-dessus de Patrick Mahomes, pas forcément, il y a un problème. Donc, il y a toujours une idée de comparaison avec le terrain. Et ça permet aussi de comprendre des choses qui ne sont pas forcément compréhensibles juste en regardant un match. Par exemple, quand on va avoir des questions, par exemple, sur les 4e tentatives, c'est pas toujours facile, juste sur une 4e tentative, de savoir qui a pris la meilleure solution. Parce qu'il faut regarder en prenant des données de plein de matchs, des 10 dernières années, regarder ce qui s'est mieux passé, comment ça s'est passé. Donc, il y a aussi cette volonté de donner une image globale au sport.
Donc, l'idée, le maître mot, si on doit retenir un seul truc, c'est de dire mettre du contexte.
Exactement, oui.
D'accord, on met du contexte. Alors, on va montrer un petit peu à quoi ça ressemble à nos auditeurs. Pour ceux qui n'ont pas suivi, voilà quelques-uns de tes articles sur les stats avancées. Je les mets à l'écran. Les stats avancées, qui a le mieux réussi sa draft ? Le receveur est-il plus important que le lineman offensif ? Peut-on bien drafter ? Sac à qui la faute ? Ou la défense gagne-t-elle des titres, par exemple ? Là, sur des articles comme ça, alors je vais prendre... Avant de partir dans les articles, tu me diras, je vais poser quelques questions du chat. Est-ce qu'on va parler, par exemple, de l'excellent système de notes de PFF ? Alors, c'est Pro Football Focus, hein, si je ne dis pas de bêtises. Clément, pour résumer, ils mettent une note au joueur qui prend plein de paramètres en compte. Voilà, on ne va pas détailler le système, mais est-ce que ça, par exemple, c'est une bonne stat avancée pour toi ?
Alors, ça dépend, parce qu'en fait, on ne peut pas... Au titre des, parce qu'il y a 2 types aujourd'hui vraiment de stats avancées. Il y a les stats avancées qui se basent vraiment, par exemple, on prend le play-by-play de la NFL et on va calculer à partir de stats usuels, donc les yards, le down, le contexte, l'écart de points, on va en créer une statistique. Et il y a aussi ce qui est fait par Next Gen Stat, qui est un organe de la NFL, où là, il y a des puces sur les joueurs et à partir de leurs données de vitesse, on va créer d'autres stats. Et PFF, du coup, est quelque chose de plus ou moins nouveau, puisqu'en fait, différent, puisque c'est des humains qui regardent les matchs et attribuent des notes sur certains critères.
Ah oui,
donc il y a quelque chose de beaucoup plus subjectif. Après, ce n'est pas toujours parce que c'est subjectif que c'est forcément mauvais. Par exemple, PFF a une très bonne stat qui est en fait ce qu'ils appellent les jeux qui ont une probabilité de turnover. Par exemple, si on regarde le match de Mahomes jeudi soir, même s'il y a eu les deux interceptions qui n'ont pas été validées, en soi, il a lancé deux ballons qu'auraient dû être interceptés. Du coup, les stats usuels vont dire il n'y a pas eu d'interception, alors qu'eux, ils compilent en jugeant parfois subjectivement des ballons qui auraient pu être interceptés. Et ben, cette statistique, par exemple, elle prédit mieux les interceptions du quarterback de la saison suivante que les interceptions en elles-mêmes.
Ok.
Donc, il y a parfois, c'est mauvais, enfin, juste sur l'évaluation des joueurs, il y a beaucoup à redire, puisque c'est subjectif. Parfois, il y a des stats qui perdurent dans le temps et qui ont une certaine stabilité, et on peut dire qu'en tout cas, elles représentent quelque chose.
Je reviens un petit peu en arrière avec une question de Tars Velder sur le chat qui demande qui a inventé les stats avancées. On a une origine en fait qui a commencé à faire des stats plus poussées ou.
Alors, oui, enfin, en fait, ça a toujours été plus ou moins présent dans le sport, hein. Je crois qu'on s'intéresse aux stats avancées. Il y a même des thèses il y a 10 ans, qui ont été faites pour créer des stats pour le foot américain. Il y en a eu pour le hockey, pour le foot, pour le basket. En NFL, celui qui a un peu démocratisé ça, il y a Pro Football Focus qui a eu pas mal de bons rédacteurs qui sont arrivés. Et il y a un économiste du côté de Seattle qui s'appelle Ben Baldwin, qui est pas mal suivi, qui a vraiment. Qui est au-delà c'est pas lui qui a inventé, mais il l'a vraiment démocratisé. Il a permis par pas mal de tutoriels et de choses à permettre aux gens de les exploiter en fait assez facilement en open
D'accord.
source.
Alors je vois que en fait il y a Schweppes qui avait posé la question sur PFF qui disait qu'il était dans le sarcasme. Je vois que c'est un sujet qui divise aussi. Il y a des puristes de la stat avancée ou il y a l'air d'y avoir des paroisses un peu dans la stat avancée ou je me trompe là?
Oui, oh bah oui, clairement.
Bon.
Clairement, non, parce que enfin, faut juste pas tomber dans l'hypocrisie de dire que la stat avancée est inutile et en même temps utiliser le taux de yard pour comparer des joueurs, par exemple. Après que des gens n'aiment pas, qu'on aime juste l'aspect sportif, se mettre devant, regarder le terrain et laisser, entre guillemets, le terrain parler, c'est quelque chose que je comprends totalement et que j'apprécie de faire aussi.
Alors, j'en viens. Ça, c'est une de mes questions à moi pour le coup. Tu l'évoques bien là, tu dis il faut pas tomber dans les caricatures, dans les clichés, etc. Si je suis méga mauvaise langue et je force le trait, c'est mon rôle d'animateur. Est-ce que ça sert pas juste à ne pas regarder les matchs?
Non, non, non. Non, parce que comme je le disais juste avant, ça sert à confirmer aussi des choses qu'on voit en match. On n'est pas encore. Forcément, si on prend les notes PFF, on peut ne pas regarder les matchs et essayer de dire des choses sur les joueurs. Mais pour moi, PFF n'est pas vraiment une stat avancée. Ce serait plus si on faisait comme si l'équipe notait des joueurs de foot à la fin des matchs. Donc, pour moi, c'est plus nuancé que ça. Et ça, en tout cas. Enfin, moi, je sais qu'après avoir m'y être mis et avoir compris certaines choses, ça permet de regarder plutôt différemment le football.
D'accord, mais c'est intéressant ce que tu dis. Donc, PFF qu'on a cité, c'est pas une stat avancée, c'est plus une notation.
C'est ça, oui.
Grosso modo, c'est une notation très précise, on va dire.
C'est ça.
Donc, pour les stats avancées, il y a beaucoup de questions aussi là-dessus. Oui, alors voilà, je pense que c'est aussi ça. Hein, il y a plusieurs écoles. Lidius, par exemple, sur le chat, dit: désolé, moi, ça me fait pas kiffer les stats avancées. Je regarde le sport pour l'émotion, pas pour la robotique. Comment tu mesures le leadership, par exemple? Il y a d'autres questions qui reviennent souvent. C'est est-ce que le principe du Moneyball des Athletics d'Oakland peut s'adapter à l'NFL? Tarzvelder demandait aussi quelles équipes construisent leurs équipes sur la base des stats avancées comme au baseball ou en NBA. Est-ce que quand on dit dans les articles, alors notamment en anglais, nous on l'évoque pas souvent, Clément, mais quand on dit ce coach est un grand fan d'analytics, c'est le mot qui revient souvent dans les articles NBA US, NFL US, c'est analytics guy, un gars d'analytics. L'analytics qu'on mentionne dans ces trucs-là, c'est les stats avancées du coup.
C'est ça, oui.
Ok.
Parce que en fait, quand Ben Baldwin a créé un peu une tendance où on a eu plein de très bons, très, enfin, des gens très compétents qui venaient d'ailleurs de grosses facs en économie, en data, qui sont arrivés sur Twitter, qui ont fait beaucoup de contenu, bah, en fait, il y en a beaucoup qui ont été récupérés, notamment par les équipes comme les Ravens, qui ont souvent été très modernes là-dessus. Et notamment aussi bah, par Brandon Staley, on est un exemple assez criant parce que sur sa vision des quatrièmes tentatives est directement issue des derniers résultats qui ont été publiés là-dessus.
Est-ce que tu es d'accord avec Raoul Roy des Galopins quand il dit les stats, c'est pas l'alpha et l'oméga, c'est juste l'alpha, ça permet de débuter et d'alimenter les débats sur les joueurs à équipe. Donc c'est pas un tout, quoi.
Ah non, 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 mais je pense que c'est l'erreur quand on parle de stats, c'est d'imaginer que. Enfin, le but, c'est pas de sortir une stat et de dire parce que. Ce joueur-là a une meilleure stat que l'autre, il est forcément meilleur. C'est juste essayer de comprendre ce qu'elle peut représenter et donner un autre niveau de lecture. Donc quand on me disait, quand avant tu lisais là les stats, ça me fait pas kiffer. Moi je suis là pour l'émotion et tout ça. Enfin, les deux ne sont pas Enfin, on peut très bien avoir les deux et juste ne pas regarder un match. On peut bien aimer les stats sans regarder un match que par ce prisme.
Je reprends le propos de l'Illus14 dans le chat, qui était justement pas très fan, mais qui dit dans les stats, un Jameis Winston peut passer pour un Tom Brady. Comment tu pondères un Jameis Winston, par exemple, dans des stats avancées? C'est un joueur très compliqué, c'est un bon exemple, hein.
Je sais pas dans quelle stat il passe. Ah, si, parce qu'il y avait eu une histoire sur Jameis Winston où en fait quand on regarde avec les statistiques usuelles, notamment avec le gros nombre d'interceptions, on a l'impression que c'est un quarterback qui est forcément très mauvais. Alors d'une certaine manière, en fait, il fait quand même avancer son équipe, même si il a ce revers de la médaille qui prend des interceptions. Donc aujourd'hui, il y a quand même, même avec beaucoup d'interceptions, quand il y a beaucoup d'interceptions, c'est quand même dur d'être l'égal d'un Tom Brady. Après, comment ça se pondère? Ça va dépendre de la statistique.
Je sais pas si tu peux te décaler un tout petit peu sur ta droite, Clément, parce que tu as un énorme reflet. Tu brilles de mille feux pour nos auditeurs. Voilà, ah ben voilà, c'est mieux avec le rideau. Nickel, parce que sinon tu commençais à briller énormément. Il a l'air de faire très beau chez toi. Winston, il a un facteur fun, dit Raoul Roy des Galopins. Alors,
C'est vrai.
typiquement, le turnover worthy play avec Winston, ça transperce le plafond, dit Schweppes. Alors, venons-en là-dessus, parce que là, on parle de choses très générales depuis tout à l'heure avec toi, Clément. Si tu dois donner un exemple, par exemple, de stats avancées que toi t'aimes bien utiliser, qui est utile pour quelqu'un qui ne connaît pas, voilà, quelle est la stat pour toi qui permet d'entrer en matière si on ne connaît pas, si on se limite au toto, etc.
Alors la stat pour moi, alors paradoxalement, c'est celle qu'il faut connaître, mais qui n'est pas la plus facile à comprendre, c'est les EPA, les Expected Point Added, qui est vraiment aujourd'hui, en fait, à mon sens, devrait remplacer les yards qu'on peut avoir avec les total yards ou les yards par jeu. C'est une statistique où en fait on va donner un contexte à chaque down. Donc par exemple, si on est en premier down, et selon plusieurs facteurs, donc selon le temps qui reste à l'horloge, la distance allant but, le nombre de yards qu'il faut pour avoir le first down, on va attribuer une note qui est en fait une probabilité de marquer sur le prochain jeu. Et en fait, cette probabilité, elle est calculée sur les mêmes situations des 20 dernières années.
Ok.
Et du coup, pour calculer ces expected points added d'un seul jeu, on va regarder ce score-là au premier down. Imaginons le running back court de 4 yards, on se retrouve en deuxième et 6. On va regarder c'est l'expected point de cette situation-là et on va faire la soustraction des deux pour donner une valeur à un jeu. Et c'est une notion qui est très compliquée à comprendre comme ça, mais qui en fait est assez simple et qui permet de mettre vraiment du contexte sur chaque jeu. Parce que si aujourd'hui, un running back est une équipe est en troisième et 15, un running back court 10 yards, alors ça paraît forcément très bien 10 yards, mais finalement, derrière l'équipe punt. Donc c'est un jeu qui a assez peu de valeur. Et
Alors,
pourtant, ça a la même valeur qu'une course de 10 yards sur une deuxième et 4.
je dis peu de choses parce que il faut que j'avoue que je suis pas matheux. J'ai fait L. Donc là, j'essaie de gérer le chat tout en essayant de comprendre ce que tu dis. Et mon cerveau, il est vraiment genre, voilà, il y a quelqu'un qui vient de dire Uno sur le chat. Alors, moi, ça me paraît en effet. Là, je vois, tu vois, sur le pied, ok, ça fait. En chiffres, ça se traduit comment? C'est quoi le pied? Je sais pas, quelqu'un parlait du Chargers Chiefs de jeudi. C'est quoi? Il y a un EPA par équipe à la fin du match, du coup, c'est ça? Ou c'est par
C'est en
action?
fait, on peut ramener, ce qui est bien, c'est de ramener au nombre de jeux qui ont été joués par une attaque, par exemple.
D'accord.
Donc, en fait, ça se traduit vraiment comme des yards par jeu.
D'accord, mais du coup, ok, donc très bien. Donc ça fait une stat par match. C'est quoi le pied des Chiefs et c'est quoi le pied des Chargers ce jeudi?
Alors, attends, je peux te chercher ça.
Sur quel site on trouve ça d'ailleurs?
Il y a Ben Baldu. Alors, ça peut se calculer soi-même, mais c'est pas
On
marrant.
n'a pas tous le temps le vendredi matin,
Oui.
hein.
Et c'est sur Ben Baldwin qui a mis à disposition, c'est un site qui s'appelle rbsdm.com.
RBSDM.com, d'accord.
Alors c'est pour, les initiales veulent dire Running Back Don't Matters.
Ah, ça c'est bien
Parce que
ça. Là, on
un
est
des gros
d'accord.
courants des analytics, c'était sur entre guillemets, la faible valeur ajoutée des Running Backs.
Et alors attends, parce que là je suis sur son site, je vais vous mettre le site à l'écran. Je suis sur le site, alors c'est austère, hein. C'est-à-dire que
Ah oui, c'est très
on
austère,
aime
mais
les maths, mais
c'est.
on n'aime pas trop l'user experience, hein, du côté de Ben Baldwin, visiblement.
Il l'a fait gratuitement.
D'accord. Bon, après, on peut mettre un petit thème sympa, hein, même gratos. NFL Box Score, non? Du coup, je vais là-dessus pour.
Alors, tu peux regarder sur les box scores, tu auras les EPA, et après sur
Alors,
Il y a
saison
aussi une
2022.
façon plus visuelle de voir les équipes et les quarterbacks sur la saison
Mais...
sur un autre onglet.
Alors, EPA per play, total EPA, là par exemple. Là, j'ai Kirk Cousins
C'est ça.
7,4. Mais alors, ça, on est sur un match de camp
C'est
11
le match de la
septembre.
semaine
Voilà, c'était
dernière.
les Vikings. Alors là, j'ai l'exemple Vikings-Packers, tu vois, par exemple. Donc, le total EPA est Kirk Cousins, Aaron Rodgers, mais moi, je veux les équipes. Alors, comment j'ai le. Alors, EPA par play, d'accord. Donc là, j'ai les Packers et là, j'ai les Vikings. Donc, late rush. Alors, all plays, voilà. EPA par play, moins 0,19 pour les Packers et plus 0,10 pour les Vikings, c'est ça?
C'est ça, oui.
Donc là, c'est une différence. C'est une grosse différence ou pas, en fait?
C'est une très grosse différence. Alors, les EPA, c'est entre moins 1 et 1, sachant que 1, c'est quasiment inatteignable. Hein, même des Patrick Mahomes, dans des grandes saisons, il tourne à du 0,4 par jeu, et c'est vraiment des très, très grosses saisons, 0,4, 0,5.
Ah, donc c'est une toute petite amplitude quand même là pour...
C'est ça, oui, c'est vraiment une petite amplitude. Mais quand on considère qu'un bon jeu, au-dessus de 0,1, ça commence à être un bon jeu. C'est l'attaque a bien avancé.
Ok.
Et par contre, en dessous de 0, c'est forcément des jeux à succès négatif.
Très bien. Bon. Donc là, on a le PA qui pour toi est une SAT. Alors il y a quelqu'un qui disait sur le chat qu'apparemment les Chargers avaient battu les Chiefs en EPA là, sur le match.
Il me semble aussi, ce qui n'est pas forcément étonnant.
Alors,
C'est pas forcément l'équipe qui a le. Si on compare
ah,
par exemple, les Seahawks Broncos de la semaine dernière, c'est pareil, les Broncos ont battu les Seahawks en termes de pied.
oui, mais alors du coup, qu'est-ce que ça peut me faire s'ils ont perdu le match? C'est ça ma question en fait par rapport aux stats avancées.
Bah, ça permet de. Bah déjà, ça permet de comprendre qu'il y a des facteurs. Les stats avancées, ça met aussi en avant qu'il y a beaucoup de facteurs aléatoires dans le sport et qui sont parfois sous-estimés. Que des choses comme les fumbles, qui en fait n'arrivent pas tout le temps. Par exemple, la défense des Seahawks qui a été pas très bonne, qui s'est sauvée avec deux fumbles. C'est vrai que si on regarde le score du match, on se dit, ah bah les Broncos ont gagné 16 points, ont marqué que 16 points, la défense a été très bonne, alors que les stats avancées montrent que non en fait.
Alors, en fait, non, EPA des Chiefs 0,10, EPA des Chargers 0,03. Donc, en fait, les Chiefs ont un meilleur EPA.
Oui, bah dans le cas là, oui. Mais pour les Broncos Seahawks, il me semble que c'est les Broncos.
Bon, parce que moi, à la fin, je suis un peu binaire, c'est le score final qui m'importe, si tu
Ah
veux.
oui.
Mais.
Mais ça raconte une autre histoire du match.
Oui, d'accord. Donc, ça raconte une autre histoire du match. Ça, c'est intéressant aussi. Je reviens au papier que tu as pu faire sur le site et je vais revenir notamment parce qu'on voit énormément ça sur les réseaux sociaux. C'est vous aimez bien mettre des visuels. On a voilà ce genre de petit visuel-là. Je vous le mets en plus grand. Relation, ligne, ça, je ne sais pas si je peux agrandir. Voilà, regardez ça. On va agrandir ça. Relation, ligne offensive et taux de sac. Pass block win rate, sack rate, donc taux de sac, taux de pass block gagné. Donc, plus tu gagnes de pass block, moins t'as de sac en théorie, on est d'accord?
C'est ça.
Mais là, est-ce que c'est parlant en fait? Parce que moi, j'avoue que j'ai du mal avec ces trucs-là, c'est que souvent, je trouve que les graphes sont. C'est hyper compliqué quoi, pour un mec
Ah
qui
mais
aime pas trop les maths.
le graphe là en l'effet est pas très bien et pas très parlant. C'est pour ça qu'il y a un article après pour l'expliquer.
D'accord.
Il n'y a pas forcément bah justement là c'est parce qu'il n'est pas parlant qu'il est parlant en fait. Parce que la corrélation n'est pas très marquée entre les deux, alors qu'on aurait tendance à dire que bah, une bonne ligne permet d'encaisser beaucoup moins de sacs.
D'accord.
Tout le but de l'article est d'essayer de montrer qu'en fait le nombre de sacs dépend plus du style de jeu du quarterback que de la qualité de sa ligne.
D'accord. Alors, je reviens au. Parce que là, c'est un bon exemple. Je regarde s'il y en avait d'autres. Voilà, dans le même article, là, on a la stabilité du taux de sac par quarterback. Donc là, c'est. Là, qu'est-ce qu'on voit, en fait?
On voit que en fait c'est en gros d'une année N à une année N plus 1, donc d'une année à l'autre, qu'en fait sur tous les quarterbacks qui ont été étudiés, là, 2010 à 2020, il y en a qui ont changé d'équipe, il y en a les lignes offensives, il y a 5 joueurs, donc ça varie énormément. On voit que malgré la variance de cette partie de l'effectif, en fait le taux de sac du quarterback est assez stable. Et donc que ça dépend plus de lui que de sa ligne.
Donc par exemple, Joe Burrow, on en parlait tout à l'heure, on disait qu'il prend beaucoup de sacs, alors que sa ligne s'est améliorée et qu'il n'était pas forcément mauvais la semaine dernière. En fait, c'est Joe Burrow le problème.
Alors,
Je vais, je force le trait. Hein.
d'une certaine manière, oui, on l'a vu avec Russell Wilson. Russell Wilson, c'est des quarterbacks qui, en plus, je pense, ont été habitués à évoluer dans des milieux hostiles, donc avec beaucoup de pression, et qui, du coup, ont l'essence de leur jeu est parfois de garder trop le ballon pour toujours chercher le big play, parce que forcément que s'il le lâchait sur chaque jeu, ben, l'attaque n'avancerait pas forcément. Mais du coup, c'est vraiment un trait de leur caractère. Là où, par exemple, Peyton Manning, quand il était sous pression, arrivait toujours à se débarrasser du ballon, ou même Aaron Rodgers qui a beaucoup évolué ces dernières saisons là-dessus.
Il y a Pumpfake qui dit la vraie question, c'est pourquoi des stats avancées, puisqu'à la fin, c'est toujours Tom Brady qui gagne. C'est une autre question. Non, mais alors, pour revenir au plus général, moi, je t'ai entendu dire justement, ça, c'est mieux que les yards cumulés, ça, c'est mieux que, etc., etc. Est-ce que, parce que je me suis senti attaqué, c'est pour ça que je te pose la question. Dans tous les podcasts, je donne des yards cumulés, je donne des yards, telle équipe a gagné tant de yards, telle équipe est cinquième sur les yards en défense en moyenne, etc., etc. Le truc, c'est que c'est quand même beaucoup plus facile à expliquer. C'est-à-dire que moi, tu vois, dans un podcast comme ça à la volée, pour des gens qui écoutent peut-être leur premier podcast ou en écoutent même plusieurs, dire ouais, mais là en EPA, ils ont été battus de 0,03 par les Chargers et machin, alors qu'en plus ils ont perdu le match. Tu peux comprendre que c'est aussi plus simple de se baser sur les stats dites classiques au début, quoi.
Ah oui, toi, mais totalement. Après, je considère qu'on est dans un sport qui demande déjà des nœuds au cerveau pour le comprendre, surtout quand on vient de pays européens où le sport ne se passe pas sur les mêmes principes. Donc, c'est juste une fois qu'on a compris ce que ça représentait, ça va plus rapidement. Après, je comprends très bien que le total de yards soit plus parlant et en l'expliquant. Mais déjà, ce qui me dérange juste dans le total de yards, c'est qu'il soit pas ramené, juste au nombre de jeux.
D'accord, oui. C'est vrai qu'on pourrait, on pourrait dire ils ont gagné. On pourrait utiliser le nombre d'actions par jeu, sinon aussi. Enfin, le nombre de yards par jeu, je veux dire.
Exactement, oui. Parce qu'on a vu par exemple la NFL sortir des visuels pour chaque nouveau record qui ont été battus la saison dernière, mais sur une saison à 17 matchs.
Bah oui, ça c'est. Oui, ça par contre, on savait que ça allait tout faire sauter. Il y a Guigui Priol qui dit c'est l'anti-vulgarisation du foot US. Sans aller jusque-là, moi c'est vrai que c'est la raison pour laquelle j'utilise pas de stats avancées dans les podcasts et dans les émissions. C'est parce que je me dis que c'est déjà bien assez compliqué comme ça et que après il y a des gens qui vont s'y intéresser et qui iront plus loin, qui iront dans les stats avancées, etc. Mais qui n'ont pas besoin de moi. En parlant de stats avancées, il y en a une que tu n'aimes pas du tout. Et ça, je voulais en parler avec toi. C'est le quarterback rating.
Le passeur rating
Le passeur rating.
de oui.
Alors, tu n'aimes pas le passeur rating, mais à mon sens, ça me frappe comme étant une stat avancée. Je vous mets à l'écran la formule du passeur rating. Voilà, je l'ai prise sur Wikipédia. Je suis sur Wiki, hop. Voilà, le passeur rating, c'est donc A égale tentative complétée sur tentative totale fois 100 moins 30, B égale touchdown sur tentative fois 20, C égale 2,375 moins interception sur tentative fois 25, D égale yard sur tentative moins 3 fois un quart. La formule est alors E égale A plus B plus C plus D divisé par 6 fois 100, et ça fait le quarterback rating d'une note maximale de 158,3. Qu'est-ce que t'aimes pas dans cette stat?
Mais, alors bon, déjà ça c'est. Alors je sais qu'il y a beaucoup de stats avancées qui peuvent paraître barbares, mais elles se basent sur des principes qui sont généralement beaucoup plus simples qu'une formule mathématique avec des facteurs qui ne sortent d'on ne sait où.
Ah, mais c'était le
Et
premier
en fait,
jet, tu vois, ils essayaient des trucs à l'époque.
c'est ça, oui. Et ce qui me dérange, c'est qu'en fait, elle ne représente pas la performance du quarterback. Elle représente parce que cette statistique, il me semble qu'elle a été créée pour faire un lien entre le nombre de victoires, enfin entre la probabilité de gagner et le passer rating. Sauf que le foot US est un sport collectif et même si le quarterback a beaucoup d'importance, il n'est pas il ne représente pas forcément la majorité de ce qui fait gagner un match. Et surtout, c'était une stat qui donne beaucoup trop d'importance aux touchdowns et aux interceptions qui représentent quand même que moins de 2% des jeux d'un quarterback et qui dépendent aussi plein de facteurs extérieurs. Parce que si on se retrouve en deuxième et goal, qu'un quarterback a réussi à amener son équipe jusqu'en deuxième et goal et qu'on envoie le running back marquer un touchdown, bah, ça donnera pas de touchdown à ce quarterback, mais est-ce que pour autant il n'aurait pas mérité d'avoir une valeur ajoutée sur tout ce drive?
C'est vrai, je suis en train de regarder, j'essaie de retrouver les quarterback rating de 2021 pour qu'on ait une idée, tu vois, qu'on voit si c'était significatif du niveau des joueurs, par exemple. NFL passer rating, j'arrive pas à trouver le. Hop, 2021, voilà, je
Ah,
l'ai.
après, il y aura forcément une tendance, puisque peu importe, enfin, si un bon quarterback lancera toujours beaucoup de touchdowns et peu d'interceptions, là où un mauvais fera l'inverse.
C'est ça, en fait, ben, ouais, mais tu vois, du coup, pourquoi tu détestes celle-là, au sens où elle donne une tendance, comme tu disais, les autres donnent une tendance, tu vois. Parce que là, je mets le quarterback rating de l'an dernier, bah, t'as Aaron Rodgers qui est MVP en 1.
Mais c'est pas parce que le résultat est bon que le process l'est forcément.
Ah ouais, d'accord. Là, tu vas loin, là.
Et c'est pas, et ça met quand même en comparaison, pour comparer deux joueurs. Regarde, bah là justement, tu as Jimmy Garoppolo juste au-dessus de Patrick Mahomes et Justin Herbert.
C'est vrai. C'est vrai. Oui, j'avais le... j'ai pas fait exprès de mettre la souris dessus, mais en effet, Jimmy Garoppolo est en 9. Donc Kyler Murray et Jimmy Garoppolo sont au-dessus de Patrick Mahomes et Justin Herbert, en effet. Et Teddy Bridgewater est 12e, hein, quand même. Je
Oui,
sais,
voilà.
sur 14 matchs l'an dernier. Bon, c'est vrai que c'est loin d'être parfait. Il est devant Josh Allen, qui est 16e. Donc, c'est des arguments pour toi. C'est des arguments pour toi. Les yards bruts, c'est quand même représentatif. Jefferson est le meilleur receveur actuellement. Il est numéro 1 en yards totaux et c'est toujours comme ça, dit Articotti. Après, c'est vrai que quand tu arrives à la fin de l'année, les yards complets, ça donne quand même une. Je te disais, moi, je prends les yards complets pour les équipes et pour les présentations dans le podcast, et les moyennes, attaques, défense, etc. Évidemment, plus la saison avance, plus c'est représentatif, par contre.
Ah mais puis surtout pour sur le poste de receveur, les stats bruts sont pour moi une très très bonne stat. Hein. Il y a
D'accord.
pas, enfin c'est pour le cas particulier des receveurs, il n'y a pas de problème. Pour les quarterbacks, je trouve ça plus nuancé parce que enfin on se rappelle tous de la saison de Blake Bortles il y a quelques années où il fait des stats monstrueuses, mais juste quand son équipe est menée de 25 points
C'est vrai.
en fin de match.
C'est vrai. Il y a ça aussi. On va finir, Clément, pour... Bon, après, si pour finir, est-ce qu'il y a des stats avancées ou pas qui sont parfaite. Genre, ça c'est génial, je peux y aller les yeux fermés. Ou alors, c'est quand même toujours plus ou moins une béquille ou une clé d'interprétation, comme tu disais.
C'est toujours une clé d'interprétation. Juste, enfin, si on a trouvé une stat parfaite, il n'y aurait plus d'intérêt à regarder le sport de toute façon, puisqu'on pourrait, c'est une stat qui serait très stable, qui permettrait de prédire tout. On saurait exactement ce qui se passe, il n'y aurait plus aucun plaisir à regarder le sport. Donc non, aucune stat, je pense, n'est parfaite.
Dernière question, est-ce qu'il y a des sites que tu recommandes à ceux qui veulent s'y mettre et que ça intéresse? Est-ce que... Attention, la saison de Bortles, c'était très bien, dit Malaki. Donc Clément, est-ce qu'il y a des sites que tu recommandes pour les gens qui veulent se plonger un peu là-dedans, qui sont un peu matheux, qui ont envie? Tu disais, toi, tu crées aussi des stats toi-même, il y a des gens qui aiment bien faire ce genre de choses-là. Quel conseil tu donnerais pour les gens qui ont envie de se mettre là-dedans?
Alors dans les très bons sites déjà, il y a une très belle série d'articles sur TouchDown Actu qui s'appelle Statistiques avancées,
Je vais vous
qui est
mettre le
très
lien
bien
dans le
pour
chat.
commencer.
Tu as raison, je vais mettre le lien dans le chat.
RBSDM qui est très sympa pour manipuler tout ce qui est EPA et aussi taux de complétion au-dessus des attentes. Très bon site, il y a 538 qui est un site américain qui fait pas mal de choses statistiques sur les, notamment en politique mais aussi en sport, qui traite le basket, la NFL. Et même si beaucoup de gens n'aiment pas PFF, notamment pour les notes des joueurs, il y a des articles statistiques sur des gens qui ne sont pas qui font partie des gens qui donnent des notes, qui sont vraiment très 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 bons et très travaillés. Et de
Alors,
manière générale, sur Twitter, il y a vraiment beaucoup de statisticiens, beaucoup de comptes à suivre.
attends, j'ai essayé de taper hyper vite, mais tu m'as
Ah
perdu.
oui.
Donc c'est Pro Football Focus, hein, le dernier, parce que je les cherche en
Oui.
temps réel et je les mets sur le chat. Je suis allé pas assez vite. Donc voilà, Touchdown Actu, RBSDM, 538 et PFF.
C'est ça,
C'est les quatre
pas mal
premiers.
d'hommes.
Voilà, on est d'accord. Eh bien, merci beaucoup, Clément. On a appris pas mal
Bah,
de
merci à
choses.
toi, Alain.
Merci encore à toi, Clément. C'était très, très instructif.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.